Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Habité par la prière depuis des siècles, le sanctuaire marial de Rocamadour, splendeur de pierre, splendeur de foi, est l'un de ces lieux où la grâce abonde. Je vous invite aujourd'hui à mettre vos pas dans ceux des millions de pèlerins qui se sont mis en route et sont arrivés un jour par la route des Martels. À l'Hospitalet, nous empruntons le chemin appelé Voie Sainte. Nous passons devant la chapelle des pénitents, traversons la cité médiévale et arrivons au pied du grand escalier de 216 marches, celui qui mène au sanctuaire. Celui que depuis le XIIe siècle, pour prier une Vierge noire, fragile et émouvante de simplicité, des millions de pèlerins ont gravi à genoux. Pour notre part, nous le gravissons à pied. Voilà, nous attaquons la dernière volée de marche, nous passons sous un porche formé par les bâtiments du sanctuaire, c'est la Porte Sainte. Nous arrivons sur le parvis, et c'est là que nous devons retrouver à l'entrée de la Porte Saint-Martial, Laurence Dupeloux, guide officiel du sanctuaire. Et c'est avec elle que nous allons découvrir le site Splendeur de pierre, splendeur de foi.
Laurence Dupeloux ?
Oui.
Moi, je suis arrivée, j'ai pris les grands escaliers, je suis arrivée à la Porte Sainte et je m'attendais à vous voir à la Porte Sainte. Et non, vous m'attendiez à la Porte Saint-Martial.
Alors pourquoi ? Parce que tout simplement ici, sur cette esplanade, on a une très très belle vue. Et on va comprendre la démarche du pèlerin en fait. Vous avez vu, Rocamadour, on ne le voit de nulle part. On le découvre en débouchant là-haut à l'Hospitalet. Alors ça s'appelle l'Hospitalet parce qu'il y avait un hôpital, tout simplement, autrefois. Il y a toute une infrastructure qui va se développer autour du pèlerinage et qui va faire vivre toute la région. Donc le pèlerin, en fait, il commence par arriver à l'Hospitalet. On a encore le petit clocher de la chapelle des pénitents. Il se repose, on a le champ du repos. Juste en face, l'hôpital. Et une fois qu'il a repris des forces, il est en admiration devant ce sanctuaire, il va commencer par descendre. Pour atteindre les sanctuaires, quel que soit l'endroit où vous arrivez, il faut commencer par descendre dans ce qu'on appelait autrefois le Val Ténébreux. Et vous allez voir que tout est symbolique. Rocamadour, c'est un chemin vers la lumière, en fait. Donc on va descendre parce qu'on aperçoit encore à flanc de colline la Voie Sainte. C'est notre chemin de procession les jours de grandes fêtes. On descend dans le Val Ténébreux. Si vous arrivez très tôt le matin, eh bien toute la vallée est dans l'ombre quand le plateau est à la lumière. Le village est en bas. C'était déjà comme ça au Moyen-Âge. Les commerçants, la vie de tous les jours se passe dans le Val Ténébreux. Donc on va traverser toute la rue du village et au bout de la rue, on va rencontrer ce grand escalier. Alors on va quitter le monde qui est en bas et on va faire une ascension, accompagnée par Marie bien sûr, parce qu'elle est notre guide sur ce chemin. Et on va monter 216 marches à genoux, un Ave Maria à chaque marche. Certains pèlerins montent avec des fers aux chevilles. Vous savez que c'est surtout au 14e et 15e siècle, on a des pèlerinages pénitentiels. Donc ils sont condamnés par les tribunaux à venir à pied à Rocamadour et on les charge de fer en bas du grand escalier. Ils vont venir les déposer sur l'autel de la chapelle Notre-Dame en remerciement.
Alors là nous allons prendre le tunnel, il s'agit d'un tunnel et là aussi c'est symbolique.
Bien sûr, on va passer sous la basilique pour entrer dans le sanctuaire. Mais cette porte Saint-Martial, c'était l'arrivée de l'évêque qui arrivait par là. Le pèlerin, il va arriver par le grand escalier. Vous allez voir que tout a une signification ici. Lorsque le pèlerin arrive par le grand escalier, il va rencontrer 7 personnes. Nous sommes dans ce tout petit sanctuaire, on est entouré de 7 chapelles et tout a une signification puisque dans ces 7 chapelles, on va retrouver les 7 sacrements. C'est un chemin de vie spirituelle. Donc la première personne, tout va se passer bien sûr dans une ascension. On commence par rencontrer Jean-Baptiste qui nous propose le baptême. Voilà le début d'une nouvelle vie. Ensuite, Saint Blaise, qui est un guérisseur, c'est un saint thaumaturge. Autrefois, on part quelquefois en pèlerinage uniquement pour demander une guérison. C'est quelquefois pas plus spirituel que ça. Puis la guérison spirituelle va accompagner cette guérison corporelle, bien sûr. Ça se passe toujours en même temps. Donc Saint Blaise. Ensuite, Sainte Anne. Alors Sainte Anne, c'est la maman de la Vierge Marie. bien sûr, on va rencontrer les grands-parents de Jésus dans cette chapelle. Donc après le baptême, le sacrement des malades, on va rencontrer le mariage. On continue à monter et notre sauveur, alors dans la basilique, autrefois on disait l'église supérieure. Hein, vous voyez, au centre, c'est le Christ qui a la plus grande des églises, c'est logique, même si on est sur un lieu de pèlerinage marial. Et la basilique Saint-Sauveur, où il va nous offrir sa miséricorde et nous confirmer, la basilique, elle est posée sur la crypte. Ça aussi, ça a une signification. Nous avons l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours dans la crypte, la messe à 11h aussi. C'est le lieu le plus profond. En fait, les fondations de notre foi, c'est la prière. Hein. Et le mot crypte, ça vient du mot cryptos, ça veut dire profond, secret. Hein, la base de notre foi, c'est la prière. Donc l'Eucharistie, bien sûr, que vous retrouvez là. Je continue mon ascension. Marie, ici, elle nous accompagne depuis le départ, bien sûr, mais elle va nous offrir son fils. Donc c'est encore l'Eucharistie et c'est le sacrement de l'ordre, puisque Marie, c'est la plus belle image de l'Église. Hein? Et elle va nous acheminer jusqu'au ciel, là-haut sous le rocher, la petite chapelle Saint-Michel, Saint-Michel archange, bien sûr, vous savez, il est toujours le plus haut placé, il nous attend pour le jugement dernier. On ne sait pas comment le pèlerinage démarre. Hein, ce sont quelques miracles. C'est assez timide comme pèlerinage au départ, mais ce sont les miracles qui vont attirer le pèlerin au pied de Notre-Dame. Et puis on aura un événement providentiel au XIIe siècle. Hein. Vous savez, ces sanctuaires sont construits au XIIe siècle par les moines bénédictins qui dépendent de saint Martin de Tulle. Et autrefois, ce parvis a été entièrement restauré au XIXe siècle, mais c'était un cimetière. Hein, on a encore la lanterne des morts, là-haut, qui veillait sur le cimetière. On marchait sur les tombes autrefois. Hein, vous en avez aussi dans les murs, encore au fond de la basilique. Dans le mur, ici, on a un enfeu. Donc, en fait, en 1166, eh bien, il y a un homme qui est en train de mourir et qui a une idée absolument géniale, parce qu'il demande qu'on l'enterre le plus près possible de la chapelle Notre-Dame. Et lorsqu'on creuse sa tombe, on découvre un corps en parfait état de conservation. Alors c'est la Providence, voilà la relique qui nous manquait. Hein? Ce corps est intact, ça suffit pour être déclaré saint au XIIe siècle, et on va l'appeler Amadour, l'amoureux de Dieu. Et c'est lui qui, en fait, va attirer le pèlerin au pied de la Vierge Marie. C'est la prière de cet ermite, en fait, qui va porter ce lieu et qui va le conduire à ce qu'il est aujourd'hui.
Et depuis le XIIe siècle, des foules de pèlerins, anonymes ou grands de ce monde, sont venus prier et implorer la Vierge Marie dans ce sanctuaire élevé pour elle par les hommes. Construite, détruite, puis rebâtie et restaurée au fil des siècles, chaque époque laissant sa marque et son style, les sept chapelles sont cependant le témoin de la foi des hommes et de cette Église qui a su traverser les siècles. Il serait fou de vouloir découvrir et comprendre au cours de ces quelques minutes de reportage l'esprit et l'âme tout à la fois de ces chapelles, de la basilique et de la crypte. Laurence Dupeloux nous propose donc de découvrir avec elle trois de ces lieux. La basilique, la chapelle Notre-Dame et la chapelle Saint-Michel. Ce ne sera là qu'une première approche, un premier pas qui en appellera peut-être d'autres. Mais cela est une autre histoire qui appartient à chacun.
On pourrait aller dans la basilique. Hein.
Voilà. Allons-y. Donc, il va falloir gravir quelques marches.
Il faut toujours monter. Vous voyez cet orgue quand on arrive, c'est la première chose que l'on voit. Et cet orgue est absolument magnifique parce que le facteur d'orgue a eu l'idée d'intégrer toute l'histoire du sanctuaire dans cet instrument de musique. Je vous ai parlé de miracles. Vous savez que la spécialité de Notre-Dame de Rocamadour, c'est de sauver les marins en mer. Eh bien, cet orgue, c'est une proue de bateau, en fait. Une proue de bateau qui, dans la tempête, vient s'appuyer sur le pilier de l'église. C'est magnifique comme histoire. Et les décors que vous voyez dessus, ce sont des algues, puisque nous sommes sur la coque d'un bateau. Alors, cette église est passionnante, j'ai envie de dire, à tout point de vue. Vous voyez que sur le sanctuaire, c'est la plus grande. Elle est dédiée à notre Sauveur, c'est logique, même si on est sur un lieu de pèlerinage marial. Et elle est construite au début du XIIIe siècle. Alors, c'est intéressant de s'imaginer qu'elle est contemporaine de Notre-Dame de Paris. Mais ici, nous sommes dans le sud de la France. À Rocamadour, on est toujours un petit peu en retard sur tout. Et au début du XIIIe siècle, eh bien, ils ne savent pas encore faire les croisées d'ogives de l'art gothique. Voilà. Donc, ils construisent une église romane. Vous savez, dans l'art roman, on s'appuie sur les murs pour lancer les arcs et soutenir la voûte. Et ici, il y a une largeur de 25 mètres. Ça ne peut pas tenir. Voilà pourquoi l'église est partagée en deux par deux piliers. Ça nous donne deux nefs. Et ces deux énormes piliers qui sont au milieu, eh bien, nous donne quatre points d'appui pour pouvoir lancer ce qu'on appelle des arcs diagonaux. Et ces arcs diagonaux, eh bien, ils ne sont pas tout à fait en plein cintre comme dans le pur art roman. Vous savez, tout est rond dans l'art roman. On a deux absides là, qui sont tout à fait romanes. Toutes nos ouvertures sont romanes avec des arcs
qui sont
plein cintre
dans le cœur. Hein,
voilà. Les absides, ce sont les ouvertures dans l'épaisseur du mur, qui sont des demi-sphères en fait. Voilà. Alors, tout à fait typique de l'art roman. Mais les arcs qui soutiennent la voûte, ils sont légèrement brisés. Parce qu'un arc brisé, ça permet de s'élever plus haut qu'un arc en plein cintre. C'est plus solide. Voilà. Donc, à Rocamadour, au début du XIIIe siècle, ben, on essaye de s'élever le plus haut possible vers le ciel, bien sûr. On ne sait pas encore faire. Voilà. Donc, on tente. Et ce qui est intéressant ici, c'est vous avez une église qui est tout à fait typique d'une époque de transition, en fait. Le passage de l'art roman à l'art gothique ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et cette basilique, elle en est tout à fait typique. Quoi. Ces deux piliers, il y a aussi une autre raison d'être, c'est qu'on a vraiment le désir d'avoir deux nefs, parce qu'on ne mélange pas les laïcs et les religieux à l'époque. Donc on a une nef pour les moines bénédictins.
Il y avait un jubé ?
Non, pas de jubé, mais alors vous allez voir. On a une nef pour les bénédictins et une nef pour les pèlerins. Et entre ces deux piliers, on avait cette croix que vous voyez sur le mur septentrional. Là, on a une très belle croix qui est en bois et qui était autrefois sur un socle entre les deux piliers. Donc la séparation est un peu symbolique, mais enfin, elle existe quand même. Alors cette croix, elle est pleine de symboles. On peut peut-être s'approcher.
On va y aller. Alors, la croix.
Nous voici devant la croix. Donc, cette église est dédiée à notre Sauveur. Il a bien sa raison d'être ici. Vous voyez que au bout des bras de la croix et au sommet, nous avons des bourgeons. Et le long du tronc, des branches coupées. Le Christ nous a offert sa vie pour nous donner la vie éternelle. Ben, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie qui va revivre grâce à ses bourgeons à Pâques dans quelques jours. Et puis ces branches coupées, vous savez, autrefois les gens ne savent ni lire ni écrire. Donc en fait, tout sert à évangéliser. On raconte les évangiles sur les voûtes, sur les murs. On raconte la Bible dans les vitraux. Et ici aussi, on va nous raconter, c'est l'évangile de Saint Jean que vous retrouvez sur cet arbre avec les branches coupées. Donc, vous voyez que tout a une signification ici. Aujourd'hui, on redécouvre... On comprend le pourquoi des choses, en fait. Pourquoi ici, par exemple, au-dessus de la croix, vous avez, sur ce vitrail qui date du XIXe siècle, nous avons l'arbre de Jessé, la généalogie de Jésus. Donc, dans le bas du vitrail, vous avez Jessé. Au-dessus, le roi David, qui joue de la musique. Au-dessus, le roi Salomon, qui va construire le temple de Jérusalem. Encore au-dessus, nous avons le roi Ézéchias. Alors, Ézéchias, c'est le roi de la promesse. Vous savez, il est... assiégé dans sa ville de Juda par une armée, par les Assyriens. L'armée est innombrable et il sait qu'il ne pourra rien faire contre une armée aussi nombreuse. Alors au lieu de mettre la vie de ses hommes en danger, eh bien, il va prier dans son temple. Voilà encore la prière qui va porter toute notre histoire. Et puis encore au-dessus, nous avons le roi Josias. Donc ici, nous avons les quatre rois les plus importants qui font partie de la généalogie de Jésus et qui nous amènent au roi de l'univers, l'enfant Jésus, sur les genoux de sa mère. Alors, si on reste dans le domaine des vitraux, vous voyez qu'on se retourne vers l'autel. Derrière l'autel, nous avons le vitrail le plus récent. Le bon pasteur qui vient délivrer sa brebis perdue. Et dans les absides, nous avons deux médaillons. Ce sont les deux vitraux les plus anciens. Lorsque cette église est construite au XIIIe siècle, il y a très très peu de vitraux. Il n'y a que ces deux médaillons dans les absides. Et nous retrouvons l'histoire de Saint-Martin, parce que les moines qui construisent ces sanctuaires dépendent de Saint-Martin de Tulle.
Voilà. Des vitraux qui sont restés en l'état depuis le XIIIe siècle?
Alors, ce sont des copies. Les originaux sont au musée, mais je peux vous dire que ce sont exactement les mêmes.
Les couleurs sont
absolument respectées, ils sont magnifiques. Voilà, ils sont au musée. Ici, vous voyez, là, je fais un petit retour sur notre système défensif, la porte de la sacristie. On a derrière ce mur une énorme tour que l'on appelait le donjon autrefois. Au niveau de la crypte, tout le cœur de la basilique est posé sur la crypte. Nous avons maintenant la sacristie de la crypte. C'était une citerne autrefois. Et à ce niveau-là, nous avions une garnison autrefois qui habitait là pour défendre les sanctuaires pendant la guerre de Cent Ans. Alors si l'attaque est trop importante, parce qu'on peut tenir un siège, on a trois citernes sur les parvis, on ferme les portes. Si ça devient trop dangereux, on peut s'échapper par là. On a dans la sacristie, vous ne pouvez rien voir d'ailleurs, il y a un escalier secret. Alors dans un placard, on débouche sur une deuxième porte qui ouvre sur un escalier en vis, très étroit, qui passe dans l'épaisseur du mur de la tour. On ne voit rien de l'extérieur. On débouche dans les combles de la basilique, entre la voûte et la toiture. Et ensuite, vous voyez, dans le fond de l'église, nous n'avons pas de mur, on est complètement accroché à la falaise. Eh bien, une partie de l'escalier est creusée dans le roc. Et on débouche là-haut, sur le plateau, 65 mètres plus haut, derrière le rempart. Voilà tout notre système défensif. Vous voyez, je mélange tout dans cette présentation parce que toute notre histoire est liée.
Voilà. Il n'y a pas d'un côté la vie de l'Église
et
la vie des hommes. C'est justement l'incarnation, c'est bien ça.
Tout est lié,
venez,
exactement. Voilà. Alors je vous propose, si vous voulez, on peut aller retrouver Notre-Dame de Rocamadour.
Allons-y. On reste dans l'église?
Alors on va passer par le fond. Vous voyez, il y a un tout petit escalier dans l'angle qui nous conduit dans la chapelle Notre-Dame. Alors autrefois, ces deux chapelles ne communiquaient pas entre elles. C'est une restauration de l'abbé Cheval.
Oui. Nous venons de pénétrer dans la chapelle de la Vierge.
Alors, cette chapelle, chapelle Notre-Dame, chapelle miraculeuse aussi, on l'appelle, c'est vraiment le cœur du sanctuaire. C'est ici que tout a commencé, vraisemblablement au 5e siècle. Ça a commencé dans une grotte, ensuite un tout petit oratoire, ensuite une minuscule chapelle au 12e siècle, entièrement restaurée au 15e siècle. Cette chapelle reconstruite après la chute du rocher en 1476. Elle ne communiquait pas avec la basilique, elle n'était pas aussi haute ni aussi grande. Et l'abbé Cheval nous reconstruit cette chapelle au 19e, ce qui vous explique le style actuel. On est complètement dans une chapelle 19e, avec un autel 19e aussi. Et le plus important, c'est la statue de Notre-Dame de Rocamadour, bien sûr. Cette Vierge noire qui date du XIIe siècle. C'est assez touchant de penser que c'est la même que Saint-Dominique est venu prier. Il a passé une nuit entière d'adoration devant cette même statue qui nous accueille aujourd'hui. Voilà. Alors on a Saint-Dominique, Saint-Bernard, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Louis bien sûr, le plus célèbre de nos pèlerins. Alors c'est une Vierge romane, une Vierge en majesté tout à fait typique de cette époque-là. Vous savez qu'on a 150 vierges noires en France, 1000 dans la chrétienté. Ce n'est pas une œuvre d'art, elle n'est pas signée. Mais tout est symbolique. Tout est là pour nous expliquer la place de la Vierge Marie dans nos prières. Alors le plus important, c'est que vous voyez que la Vierge Marie est assise et elle a son enfant qu'elle nous présente sur son genou gauche. Marie, c'est le trône de la sagesse, en fait. L'enfant Jésus, c'est la sagesse même. Si vous regardez ses mains, Marie ne touche pas son enfant. Ses mains sont posées sur l'accoudoir de son trône à elle. Elle nous présente son fils sans le retenir. Et en même temps, elle est en prière, elle l'offre. Marie nous a offert son fils. Et elle a les yeux mi-clos, elle est en prière, elle intercède pour nous. L'enfant Jésus est assis sur le genou gauche. Le genou, c'est le symbole de la force. Vous savez, pour pouvoir marcher, avancer, il faut avoir les genoux solides. Lorsque les genoux tombent, lorsque les genoux flanchent, on tombe. Pour humilier quelqu'un, on le met à genoux. Le Christ est notre force dans les moments d'épreuve. Et puis le côté gauche, c'est tout simplement le côté du cœur. Vous voyez, l'enfant Jésus, il a sa tête au niveau du cœur de sa maman. C'est une histoire d'amour d'une maman avec son fils et de la Vierge Marie avec toute l'humanité. Vous voyez que le genou droit est libre, si vous voulez venir vous confier à Marie. Alors pourquoi est-elle noire? C'est assez... Je n'ai pas de réponse exacte, en fait. Je vous ai parlé d'un pillage par les protestants au XVIe siècle. Après leur passage, il faut tout reconstruire. Donc dans cette chapelle, au XVIIe siècle, on avait un retable de style baroque. Sur ce retable baroque, eh bien, en dessous de la statue de la Vierge Marie, nous avions une phrase en latin, « Nigra sum sed formosa ». Ça veut dire « Je suis noire, cependant je suis belle ». C'est le cinquième verset du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. C'est la reine de Saba qui vient chanter devant le roi Salomon en lui disant « Je suis noire, cependant je suis belle ». C'est l'annonce des noces mystiques du Christ avec l'Église. Cette couleur noire, il y a aussi une des raisons physiques, si je puis dire. Elle est sculptée dans un bois de noyer. Aujourd'hui encore, on peut offrir une bougie à Notre-Dame. Donc elle est enfumée depuis le XIIe siècle. Et autrefois, vous voyez qu'elle a encore un collier autour du cou, mais elle était revêtue d'une robe en plaques d'argent. Donc ça l'a forcément oxydée aussi. Tout cela peut vous expliquer cette couleur noire. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle était noire au départ. Rien ne me le prouve. Les bateaux accrochés à la voûte, ce sont des marins sauvés par Notre-Dame de Rocamadour. Et sur le mur, à côté de la porte, là, vous avez une plaque avec des dates. Ce sont tous les miracles en mer qui ont été vérifiés grâce à la cloche miraculeuse.
Elle est juste au-dessus de nous,
accrochée à la voûte. Elle est toute petite, elle est en fer. C'est l'objet le plus ancien des sanctuaires. Elle date de l'époque carolingienne, donc avant le IXe siècle. Alors, on l'appelle miraculeuse parce qu'elle sonne toute seule. Vous voyez qu'il n'y a pas de cordage, il n'y a rien pour la faire sonner. Elle sonne lorsque Notre-Dame sauve les marins en mer. Voilà, donc les moines ont vérifié, lorsque le pèlerin vient raconter son histoire, on vérifie en fait, parce que les moines ont noté le jour et l'heure où la cloche sonnait.
Et ce qui fait que nous avons des dates, là 1544, 1385, je ne vois pas très bien de loin, 1554, on a toute une série de dates qui sont consignées dans ce qu'on appelle le livre des miracles ici.
Voilà. Le livre des miracles est écrit en 1172 par les moines bénédictins et ça va faire une propagande absolument immense pour le pèlerinage, ce livre des miracles. L'original était à la Bibliothèque nationale à Paris. Et en 1172, il y a déjà 126 miracles répertoriés. Des miracles de toutes sortes. Des miracles en mer, beaucoup de guérisons, bien sûr. Et vous voyez, dans le fond de la chapelle, là, nous avons des fers, des anneaux accrochés au rocher. Nous avons aussi l'histoire de prisonniers qui implorent Notre-Dame de Rocamadour pour leur libération et qui, tout d'un coup, leurs chaînes se décèlent du mur, les anneaux s'ouvrent, ils sont libres. Donc ils vont déposer leurs chaînes et leurs anneaux dans la chapelle Notre-Dame. Voilà. Nous avons toutes sortes de miracles. Et je vous dis, il y en a encore aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que nous ne nous arrêtons pas ici. Au XIIe siècle, le pèlerin il atteint son but ici, au pied de la Vierge Marie. Et moi, je vous propose, elle nous conduit jusqu'au ciel. Donc nous pouvons aller jusque dans la chapelle Saint-Michel. qui nous attend pour le jugement dernier. Nous rentrons dans la chapelle Saint-Michel, la chapelle privée des moines qui ont construit ces sanctuaires. Vous voyez, tous ces bâtiments-là, c'est l'ancien prieuré des bénédictins. Voilà, donc le pèlerin, autrefois, il n'a pas accès à ce lieu. Alors nous montons dans le rocher. Cette chapelle est semi-troglodytique. Nous n'avons pas de mur, pas de toit, c'est le rocher, la falaise. Alors cette chapelle date du XIIe siècle. C'est une petite merveille. Dans les sanctuaires, on ne peut pas aller plus haut. On est à la porte du ciel. Je vous mets un petit peu de lumière. Ici, nous avons ce qu'on appelle une abside, une toute petite abside en demi-sphère. C'est ce qu'on appelle un cul de four, en histoire de l'art, au XIIe siècle. Et une peinture à l'intérieur qui date du début du XIIIe. Et vous avez ici toute l'illustration de la devise du sanctuaire. C'est l'espérance ferme comme le rocher. On espère tous être un jour accueillis au paradis. Alors on a toute cette illustration ici. Au centre, le Christ en gloire qui est dans une mandorle. Cette mandorle indique la divinité du Christ. Il n'est pas là en tant qu'homme, mais en tant que Dieu au paradis. Nous pensons qu'ici, il est assez vraisemblable que les moines célébraient des messes de requiem. Parce que nous avons le cimetière en bas, sur le parvis de Notre-Dame. Le Christ en gloire, le jugement dernier. Il y a tout pour prier pour nos morts. Vous voyez que partout en Corse, la prière porte ce lieu partout, partout.
Et bien voilà, comme tant d'autres, nous étions venus voir le site et découvrir ses monuments, comprendre son histoire. Mais au fil de la visite, nous avons découvert l'âme de Rocamadour. Arrivés en simple curieux, nous nous sommes peut-être mis en route. Nous sommes peut-être devenus pèlerins.